Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est midi en temps universel, 13h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour et bienvenue dans RFI Midi, c'est le début d'une heure d'information, première demi-heure internationale avant Afrique Midi, chronique, reportage invité, on commence avec le journal. Au sommaire, le retour au pays de 5 otages thaïlandais libérés il y a 10 jours par le Hamas dans la bande de Gaza. Reportage en Syrie, 2 mois après la chute de Bachar el-Assad, mais pour la population, le changement pour l'instant n'est pas très visible. Élection présidentielle aujourd'hui en Équateur, on en parlera dans ce journal, on parlera du poids des narcotrafiquants dans l'économie. Et puis un incendie sur une île totalement isolée de l'océan Indien, les autorités françaises laissent faire en dépit de la présence d'une station scientifique importante.
RFI Midi.
Au programme également le journal des sports, les élections législatives aujourd'hui au Kosovo sur fond de tension avec la Serbie, décryptage avec notre invité. L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner l'art de la guerre? Et puis la renaissance de Jeanne d'Arc, une héroïne française dans un spectacle musical. Il est fragile, mais tant bien que mal, l'accord de trêve entre Israël et le Hamas est respecté après l'échange de prisonniers et d'otages palestiniens. Hier, l'armée israélienne a totalement évacué aujourd'hui le couloir de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux entre la mer et Israël, comme c'était prévu par l'accord de trêve. Résultat, la circulation est libre, rétablie sur la route qui relie le nord au sud de la bande de Gaza. La suite du cessez-le-feu, les négociations pour l'ouverture de la phase 2 de cet accord de cessez-le-feu, cet accord de trêve entre Israël et le Hamas. Eh bien, Benjamin Netanyahou a annoncé hier soir, après la libération de 3 otages israéliens, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar. Alors, il y a une dizaine de jours, des otages thaïlandais avaient aussi été libérés par le Hamas. Et après un séjour dans un hôpital israélien, ces 5 hommes, Heike Schmidt, sont rentrés chez eux en Thaïlande.
Oui, tout à fait. Encore emmitouflés dans des doudounes, ces 5 ex-otages sont arrivés donc dans la chaleur moite de Bangkok ce matin. Après 16 mois de captivité, ils ont été accueillis à l'aéroport par leurs proches en larmes. Ces 5 hommes vont maintenant pouvoir retourner dans leur région natale, dans le nord du pays. La Thaïlande a négocié leur libération séparément avec le Hamas et l'aide du Qatar et de l'Iran. Tous sont des ouvriers agricoles partis en Israël à la recherche d'un avenir meilleur. Comme quelques 30 000 Thaïlandais, ils étaient embauchés dans les kibbutz et les fermes, souvent dans ce qu'on appelle les zones rouges, c'est-à-dire proches de la bande de Gaza. Après Israël, c'est la Thaïlande qui a payé le plus lourd tribut depuis le début du conflit. 46 Thaïlandais ont perdu la vie selon des chiffres officiels, la plupart lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre. D'autres sont décédés depuis en captivité. Et aujourd'hui, Florent, un dernier otage thaïlandais est encore retenu à Gaza. Il serait toujours vivant.
Heike Schmidt du service international de RFI. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui termine son déplacement aux États-Unis, a donné une interview à la chaîne de télévision Fox News. Sans surprise, il y approuve le plan de Donald Trump sur Gaza, l'évacuation de la population palestinienne. Et il se dit prêt, je le cite, à faire le job, à faire le travail. Alors que l'Iran, ce matin, met en garde contre ce déplacement de force des Palestiniens. Ce serait une sérieuse menace pour toute la région. Dans la région, il y a la Syrie qui est en train de changer de visage 2 mois après la chute, la fuite de Bachar el-Assad. Mais pour les Syriens, au quotidien, le changement n'est pas encore très visible. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Eclair et Guilhem Deltey avec Nour Salam dans la banlieue de Damas.
Le minaret de la mosquée tient encore à peine debout, éventré par les bombardements menés par le régime. Tout autour, les maisons détruites sont nombreuses. C'est le cas depuis 10 ans de celle de Tamer Sbani. Ce père de 8 enfants vient de commencer la reconstruction de sa maison.
C'était interdit avant. Une décision du régime d'Assad stipulait qu'il était interdit à la municipalité de laisser poser un parpaing. Si quelqu'un le faisait, il pouvait être emprisonné et pouvait payer une amende.
Mais peu peuvent se permettre de lancer des travaux. Fahed Rehani n'en a pas les moyens. Il vit actuellement dans un logement qu'il loue grâce à une solidarité locale. Mais les priorités des familles moins défavorisées ont désormais changé.
Avant, les bienfaiteurs nous donnaient par exemple 100 000 livres pour payer le loyer. Mais maintenant, ils nous disent « le pays est libéré, il y a d'autres choses plus prioritaires à financer ».
Devant les ruines de sa maison, Maher Raoudi s'estime chanceux de pouvoir encore bénéficier du soutien d'un proche. Mais la situation ne pourra pas se prolonger éternellement, dit-il.
Nous vivons dans la maison de mon cousin qui a quitté Douma et vit à Alep. Mais il veut revenir, on ne sait pas quand, mais peut-être dans 5 ou 6 mois. Et on ne sait pas ce qu'on fera alors.
Et depuis 2 mois, les habitants de Douma n'ont vu aucun représentant syrien ou étranger dans leur ville. Bertrand Eclair, Nour Salam, Guilhem Deltaï, Douma, RFI.
Vladimir Poutine et Donald Trump se sont-ils parlé au téléphone? Le journal américain New York Post l'affirme en s'appuyant sur une déclaration de Donald Trump dans l'avion présidentiel Air Force One. Mais officiellement, ni la Maison-Blanche ni le Kremlin ne confirment. Élection législative aujourd'hui au Kosovo avec un enjeu pour le Premier ministre sortant, le nationaliste Albin Kurti, obtenir la majorité absolue. Les bureaux de vote ferment à 19h, 18h TU et on en parle dans quelques minutes avec notre invité. Il y a aussi aujourd'hui des élections en Équateur, élections présidentielles et législatives, et le président sortant, Daniel Noboa, espère être réélu, lui qui a adopté une ligne dure face aux narcotrafiquants. Alors, quel est le poids des cartels de la drogue dans l'économie équatorienne? Correspondance à Quito d'Éric Sanson.
Qu'ils soient puissants comme les choneros, les lobos, les loups, les tiguerones, les tigres, ou de création plus récente comme les gangsters, la mafia 18 et les Freddy Krueger, les dizaines de gangs criminels en Équateur ont un poids croissant dans le pays. Leur influence se mesure par le niveau de corruption, la taille des marchés illicites, leur poids dans la société, comparé à la résilience de l'État, sa capacité de lutte contre le blanchiment et à la qualité du système judiciaire, entre autres facteurs. Et le compte n'est pas bon pour les autorités, selon Michel Maffei, experte en thèmes de sécurité.
Les acteurs criminels ont pratiquement 2 fois plus de force que l'État équatorien selon l'index GITOC. Dans leur lutte contre le crime organisé, les autorités ont donc toutes les chances de perdre.
Un constat partagé au niveau international.
Un fonctionnaire du département d'État américain spéculait il y a quelques années qu'entre 35 et 40% du PIB de pays infiltrés par le narcotrafic provenait du blanchiment. Ici, l'unité d'analyse financière et économique du gouvernement équatorien parle de 3%, ce qui est un mensonge.
Et même si les chiffres peuvent se discuter, de nombreux experts, comme l'ancienne ministre de l'économie, Magdalena Barreiro, reconnaissent que l'économie équatorienne se maintient en partie grâce au narco-dollar. Éric Sanson, Quito. RFI.
RFI, il est 13h08 à Paris. Une question dans ce journal. Connaissez-vous l'île d'Amsterdam? C'est une petite île perdue dans l'océan Indien à plusieurs milliers de kilomètres de l'île de la Réunion. 58 kilomètres carrés, ravagée par les flammes depuis plusieurs semaines, mais les autorités françaises ont décidé de ne pas intervenir en dépit de la présence d'une base scientifique importante. Simon Rosé.
C'est l'un des endroits les plus isolés au monde, à près de 3000 km au sud-est des côtes de l'île de la Réunion. Trop compliqué pour les pompiers d'intervenir. C'est pour cette raison que la préfecture des terres australes et antarctiques françaises a décidé de laisser faire le feu. Et le feu en profite. Il s'est déclenché le 15 janvier dernier pour une raison encore inconnue. Attisé par des vents forts et secs, c'est presque la moitié de l'île qui est aujourd'hui touchée. Ces 31 résidents évacués, ne reste que la base scientifique. Elle fonctionne toujours, mais elle est touchée. Ce qui suscite l'inquiétude des étant donné son importance. Son isolement en fait un lieu de choix pour étudier la pollution de fond de l'atmosphère. C'est d'ailleurs l'une des 2 seules installations au monde à le faire, la seule de l'hémisphère sud. Concentration en gaz à effet de serre, polluants atmosphériques comme le mercure, ils sont mesurés sans discontinuer depuis près de 50 ans. Une frégate de la marine nationale a levé l'ancre ce week-end de la Réunion pour se rendre sur l'île Amsterdam afin de mesurer l'étendue des dégâts et rechercher les causes de l'incendie.
Simon Rosé, il est 13h10 à Paris. RFI Midi continue et au programme de ces 20 prochaines minutes avant Afrique Midi, les élections législatives au Kosovo, l'intelligence artificielle et les militaires, le combat de peuples autochtones pour préserver une réserve naturelle en Bolivie, et puis Jeanne d'Arc, héroïne d'un spectacle musical à Paris, mais d'abord les sports. Le journal des sports avec Olivier Pron. Bonjour Olivier.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
Au programme du foot, du rugby, mais d'abord de la voile pour un hommage à la Benjamine du Vendée Globe.
Elle a bouclé l'Everest des mers à 23 ans, une première. Violette d'Orange vient d'arriver au Sable d'Olonne après un tour du monde sans escale et sans assistance, achevé en près de 91 jours avec ses vidéos où elle partageait ses frayeurs après une montée au mât pour réparer une avarie, ses joies à l'ouverture de ses cadeaux de Noël ou ses repas. La Charentaise a généré un véritable raz-de-marée médiatique sur cette course autour du monde. Plusieurs centaines de milliers de suivants sur les réseaux sociaux et une 25e place au final, mais de loin, de très loin, la première pour sa famille et ses supporters, très nombreux actuellement pour l'accueillir.
Comme promis Olivier, le football avec l'Espagne et le choc d'hier soir.
Le Real a concédé un match nul, un partout, à domicile, dans le derby de Madrid face à l'Atlético. Kylian Mbappé a répondu à la 50e minute au pénalty de Julian Alvarez en première période. Pas de vainqueur, décevant pour les merengues et pour Lucas Vazquez en particulier, même si du côté du Real, on pense déjà au match de mardi capital à Manchester City en barrage de la Ligue des Champions.
Nous sommes toujours en tête. Le résultat est insuffisant parce qu'en deuxième mi-temps, on a été meilleur. Nous avons eu moins de mal à aller dans leur camp. On a attaqué de partout. À un but partout, on s'est créé beaucoup d'occasions. C'était très serré. En première période, je pense qu'on a manqué de précision dans les derniers mètres. En seconde, c'était mieux. On a pressé plus haut sur le terrain. On a récupéré les ballons. Manchester City, c'est une grande équipe. Je pense qu'ils jouent le même football qu'il y a quelques années. Et ça va être deux superbes matchs. Nous, on a montré ce que l'on est capable de faire. On est sur la bonne voie et prêt pour ce qui nous attend. Ce mois-ci, le prochain, c'est là que tout se décide et nous allons tout faire pour réussir à obtenir quelque chose.
Lucas Vazquez et le Real toujours en tête, un point devant l'Atlético et qui pourrait voir revenir à une longueur le Barça ce soir en cas de succès du côté du FC Séville. Des Blaugrana qui ont enregistré l'arrivée d'un renfort pour leur équipe B, la pépite malienne Ibrahim Diarra, 18 ans et révélation de la dernière Coupe du Monde des moins de 17 ans. Il avait marqué 5 buts, présenté il y a quelques jours. Il devra sans doute patienter un peu avant de faire ses débuts en équipe A, mais Ibrahim Diarra ne manque pas d'ambition pour la suite.
C'était un rêve de jouer à Barcelone. Et puis maintenant, j'ai réalisé mon rêve. Maintenant, c'est à moi de montrer de bien jouer à Barcelone. Sur le plan collectif et sur le plan individuel aussi. Je veux faire beaucoup de choses ici, remporter plusieurs trophées avec le club et avoir le temps de jouer aussi pour faire une bonne carrière.
C'est tout ce qu'on lui souhaite. FC Séville, Barcelone, 20h temps universel en Ligue 1. Clôture de la 21e journée ce soir aussi avec Angers-Marseille.
Et après le foot, Olivier, le rugby et l'échec des Bleus hier en Angleterre.
Nul! Ils ont été nuls,
on pourrait
dire comme
ça. Ça se sent.
Une équipe de France consternante de maladresse d'un bout à l'autre qui aurait pu gagner de 20 points à Twickenham et perd d'un seul, 26-25, à la dernière minute. C'est un revers qui fait mal aux supporters et au capitaine Antoine Dupont.
On peut s'en prendre qu'à nous, on a surtout la première mi-temps qui où on a beaucoup de regrets, on doit marquer au moins 3 essais et le match est le même après. Ils ont été pragmatiques, ils ont marqué à chaque fois qu'ils sont venus chez nous. Et nous on a mangé trop d'occasions. On sait qu'à ce niveau-là, si on les met pas au fond, on ne gagne pas le match à la fin.
Eh ben oui, fin de cette deuxième journée, cet après-midi, Écosse-Irlande, 15h, temps universel. C'est comme au foot, si on marque pas de but, on peut pas gagner.
Merci pour cette leçon de vie. Olivier Pron, il est 13h14 à Paris. Des élections législatives au Kosovo aujourd'hui, alors que le Premier ministre sortant, le nationaliste Albin Kurti, veut transformer ce scrutin en référendum dans un contexte de crise, de tension avec la Serbie et la minorité serbe au Kosovo. 16 ans après l'indépendance de l'ancienne province serbe, indépendance obtenue avec le soutien des Occidentaux. Alors quels sont les enjeux de ces élections aujourd'hui? On va voir ça avec notre invité. Tefta Kelmendi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe du programme Europe élargie au Centre de recherche indépendant, le Conseil européen des relations étrangères. Albin Kurti, le Premier ministre sortant, a exclu avant ces élections toute alliance. Il doit donc obtenir la majorité absolue pour rester au pouvoir. Est-ce que cet objectif vous paraît réaliste aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, c'est encore tôt, le Kosovo vote aujourd'hui, il est 13h pour l'instant, il n'y a que autour de 10% de la population qui a voté, qui s'est rendue aux urnes. Albin Kurti, effectivement, espère avoir la majorité encore une fois et avoir 50% de vote comme dans les élections précédentes. Mais toutes les études qui ont été faites jusqu'ici montrent plutôt une baisse d'environ 10% de vote pour le Premier ministre, pour la partie du Premier ministre sortant. Donc, tout ce qui aura en dessous de 40%, il sera dans une position très défavorable et l'opposition aura donc la possibilité de créer une coalition et de former un gouvernement sans lui. Donc, tout se joue autour du 40%, mais pour l'instant, c'est encore très tôt pour dire quels seront les résultats.
Et on verra ça dans la soirée. Albin Kurti a fait de la fermeté face à la Serbie, sa ligne politique. Mais aux yeux des Kosovars, des électeurs qui votent là aujourd'hui, est-ce que cette question serbe est plus importante que finalement les questions économiques, l'inflation, la pauvreté ?
La question serbe, effectivement, était importante. Pourquoi ? Parce que ces quatre dernières années, il y a eu le Kosovo a connu une montée en tension avec la Serbie. Non seulement le dialogue de normalisation des relations n'a pas avancé, mais les tensions ont monté. Il y a eu aussi une montée en violence dans le nord du pays où il y a une population importante, plus importante de la communauté serbe. Il y a eu donc une attaque en septembre 2023 dans le nord du pays où il y a eu un officier de police kosovar qui a été tué. Donc ces tensions-là, effectivement, jouent dans le faveur de la ligne souverainiste du Premier ministre actuel, qui a été effectivement son principal message de sa campagne électorale. Mais pour le Kosovo et pour une grande partie de la population, non seulement les questions économiques et le développement du pays est important, mais les relations avec les alliés et les partenaires clés du Kosovo occidentaux sont très très importants.
Et précisément les États-Unis. Donald Trump, l'envoyé, l'émissaire de Donald Trump a fait une déclaration il y a quelques jours où il a clairement soutenu le départ du pouvoir d'Albin Kurti. Est-ce que cette déclaration peut avoir une influence sur le résultat ce soir ?
Encore une fois, cela reste à être vu. La population est plutôt divisée. Monsieur Richard Grenell n'a pas une bonne réputation au Kosovo du fait de la... Dans une partie, et notamment parmi les électeurs du Premier ministre Albin Kurti, il est considéré comme quelqu'un qui est très proche de la Serbie, comme quelqu'un qui intervient dans des affaires internes et de questions stratégiques de souveraineté du Kosovo, ce qui n'a pas le droit d'après ces électeurs-là. Mais pour une autre partie de la population, les États-Unis restent l'allié principal et stratégique du Kosovo sans lequel l'indépendance du Kosovo ne serait pas été possible. Et les États-Unis donc restent l'acteur principal aussi pour toute question de garantie sécuritaire pour le Kosovo. Donc une partie de la population voit cette intervention de M. Grenell plutôt dans l'aspect positif de faire que les électeurs se rendent compte que une possible élection de M. Albin Kurti à nouveau pourrait mener à des tensions en montée avec les États-Unis.
Et les perspectives d'une adhésion du Kosovo à l'Union européenne, la candidature a été déposée il y a un peu plus de 2 ans, est-ce que ce sujet a été évoqué pendant la campagne électorale ?
Oui, ce sujet est important et les membres, les partis de l'opposition font de ce sujet un message clé, donc renouer les liens avec les partenaires européens et remettre en route la candidature du Kosovo à l'Union européenne. Mais pour cela, il faudra aussi que l'Union européenne fasse sa partie de travail, ce qui veut dire que la reconnaissance du Kosovo au sein de l'Union européenne doit se finaliser. Et pour cela, il reste encore 5 pays qui n'ont pas reconnu le Kosovo, qui doivent d'abord le reconnaître pour que le Kosovo puisse devenir pays candidat et ne pas rester le seul parmi les 6 pays de Balkans qui n'a pas ce statut-là. Mais pour cela, l'Union européenne a été très ferme également sur le fait que le Kosovo doit changer son approche par rapport au dialogue et surtout la mise en œuvre de l'accord qui a été conclu en 2023 à Bruxelles, et notamment sur la question de donner une sorte de plus de droits à la minorité serbe au nord du pays.
Merci beaucoup, Tefta Kelmendi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe du programme Europe élargie au Conseil européen des relations étrangères. Il est 13h20 à Paris. Ils protègent la nature, leur nature. Voici dans RFI Midi le combat que mènent plusieurs peuples de l'Amazonie bolivienne dans la réserve naturelle de Pilon Lajas, où les chercheurs d'or et les contrebandiers trafiquants de bois et d'animaux s'en donnent à cœur joie face à un état défaillant. Alors les communautés autochtones organisent des patrouilles pour protéger leur réserve de biosphère. Reportage de Nils Sabin.
Il est un peu plus de midi quand la patrouille quitte finalement le port de Rurrenabaque en Amazonie bolivienne. Au programme, un jour et demi à sillonner la rivière Beni, l'une des frontières naturelles du Pilon Lajas, à la recherche de potentiels chercheurs d'or illégaux. Madeline Guzman fait partie de l'organisation autochtone du territoire. Elle nous explique la procédure quand ils rencontrent des mineurs.
Si c'est la première fois, on le rappelle à l'ordre et on le fait sortir de la zone. La deuxième fois, on le sanctionne en saisissant tout son matériel. Au bout de la troisième fois, on porte plainte et on avertit les autorités.
Après 4 heures à remonter le Beni sans embûche, nous arrivons à l'un des campements des gardes forestiers du Pilon Lajas. Une petite réunion de coordination est organisée. La patrouille reprendra le lendemain matin avec au moins un garde forestier présent.
Ils protègent la zone et nous aussi, donc nous avons tout intérêt à collaborer. Et comme ils connaissent bien le secteur, ils peuvent aussi nous guider au besoin.
Pendant la soirée, Lander Beyuma, l'un des gardes forestiers, détaille le peu de moyens dont il dispose pour empêcher l'arrivée de mineurs ou de contrebandiers. Un manque de ressources qui va parfois jusqu'à l'absence de carburant pour patrouiller aux frontières de la réserve.
Avant, nous étions 20 gardes forestiers. Maintenant, nous ne sommes plus que 11. Avec ces 9 effectifs en moins, c'est très dur de protéger les 400 000 hectares de la réserve naturelle du Pilon Lajas.
Le lendemain, nous atteignons la limite du Pilon Lajas. Aucune activité minière n'est détectée pendant le trajet. Pourtant, pour Hermine Noviès, vice-président du conseil régional Timan Moseten, la situation est préoccupante.
Nous nous trouvons devant le ruisseau Naranjani, qui est la limite du territoire. À 1 mètre environ de l'autre côté, nous avons constaté la présence de mineurs qui cherchent de l'or.
Bien que ces activités minières ne soient pas dans le territoire du Pilon Lajas, le mercure utilisé est rejeté dans le Beni, empoisonnant un petit peu l'eau, les poissons et les populations locales. Pour Madeline Guzman, l'un des principaux responsables de cette situation n'est autre que l'État.
Ce que souhaite l'État, c'est développer l'industrie minière, quitte à mettre en péril nos territoires. C'est ce qu'il a toujours souhaité. Et si on ne se mobilise pas, c'est sûr qu'il ne va pas nous écouter. Donc on lutte. On représente la voix de nos communautés et on ne baisse pas les bras.
Une détermination plus que nécessaire pour faire face aux incessantes tentatives d'intrusion des chercheurs d'or dans le Pilon Lajas et surtout supporter le silence de l'État bolivien. Nils Sabin, sur les rives du Beni, RFI.
RFI à l'heure de l'intelligence artificielle à la veille du sommet qui se tiendra demain et après-demain à Paris. Et dans la chronique Ligne de défense, nous allons voir comment l'IA pourrait révolutionner la manière de faire la guerre. Franck Alexandre.
Radar nourri au deep learning et drones d'attaque construits autour d'un logiciel dopé à l'IA. La guerre d'Ukraine sert de laboratoire. L'agence ministérielle de l'IA de défense, l'AMIAD, créée l'an dernier, a justement pour mission de permettre à la France de maîtriser souverainement l'intelligence artificielle de défense pour ne pas être en retard d'une guerre, dit son directeur Bertrand Rondepierre.
La guerre en Ukraine, il y a énormément de choses qui sont en train de faire en matière d'autonomie, d'accomplissement de missions, à la fois sur de la reconnaissance et aussi sur des munitions téléopérées, donc des drones qui font ensuite des frappes. C'est un constat que la guerre évolue. On est vraiment sur une mutation, par exemple, massification de drones pas chers versus des gros objets très chers. C'est pas que l'un soit supérieur à l'autre, mais c'est une vraie question qui se pose. Et donc ça, c'est une mutation qu'il faut prendre en compte et qu'il faut suivre.
Helsing Jeune Pousse française a ainsi développé l'H-X2, un nouveau type de drone d'attaque capable de détruire avec précision des objectifs d'artillerie, des blindés, tout en résistant aux brouillages adverses. L'entreprise, nous dit son fondateur Antoine de Braquilange, a répondu à l'appel du général ukrainien Valery Zaloujny pour obtenir de ces entreprises venues du civil une percée technologique.
L'entreprise a annoncé un certain nombre de partenariats et de contrats pour les Ukrainiens, pour offrir finalement aux Ukrainiens cette masse à bas coût, c'est-à-dire un grand nombre d'objets produits rapidement, dont le prix unitaire finalement est assez faible, mais qui est avec de l'IA et donc un peu plus d'intelligence.
L'IA remodèle l'art de la guerre et s'impose comme l'allié indispensable face au déluge d'informations dont disposent les armées. Pour plus de vélocité, mais pas que, indique Marc de Fritsch, directeur de MASA, leader mondial des logiciels pour l'entraînement des états-majors.
Accélérer la décision, mais c'est aussi proposer d'autres solutions et c'est de tester les solutions. Le fait, par exemple, d'avoir une simulation connectée au système d'information et de commandement et de pouvoir tester la solution que l'on envisage dans une simulation et de la réinjecter dans les systèmes de commandement, là, c'est un énorme avantage.
Les systèmes existent, restent à les fabriquer et en masse, c'est le cas notamment pour les drones équipés d'IA. Antoine de Braquilange.
Comment est-ce qu'on fait pour se préparer à ça? Comment est-ce qu'on passe à l'échelle industrielle? Quel modèle de production et de supply chain logistique pour être capable de monter en cadence de production pour que le jour J, on puisse produire à l'échelle des objets et en toute autonomie stratégique?
Les entreprises de l'IA de défense plaident donc pour la création d'un Airbus du secteur et ce sera l'un des enjeux du sommet de Paris.
On prend qu'Alexandre pour l'hymne de défense et après les armées du futur, hommage à présent à une combattante du passé, Jeanne d'Arc. 6 siècles après sa condamnation au bûcher, Jeanne d'Arc renaît au théâtre des Bouffes du Nord à Paris, spectacle porté par la comédienne Judith Chemla, reportage de Carmen Lunsman.
Seule au milieu de la scène, pâle et les cheveux en bataille, Jeanne d'Arc chante sa foi face aux hommes d'église qui cherchent à la condamner pour hérésie.
La noble cité d'Orléans.
Cette analphabète, tout juste 19 ans, déjoue avec malice, détermination et une perspicacité inouïe les pièges que lui tend le tribunal d'inquisition. Que des hommes en costumes somptueux, représentés sur un écran octogonal, évoquant à la fois toile d'araignée et tour de prison. Octogonal est aussi le plancher sur lequel se tient Judith Chemla, délicate et bouleversante, entre force et fragilité, habitée par son personnage.
C'est quand même une enfant. Tout ce qu'il y a de plus vulnérable, qui change le cours de l'histoire, qui redonne espoir et qui transforme le monde parce qu'elle a accepté de se lever pour la justice, pour mettre fin au massacre, pour écouter cette voix qui lui disait de faire cesser cette guerre de 100 ans et en allant au combat et en revendiquant de ne pas tuer. Enfin, ce sont ces mots, presque 600 ans après, notés par ses ennemis, par les greffiers de l'époque. Et c'est une très jeune femme qui tient tête, qui tient sa vérité face à des gens qui l'ont déjà jugée coupable.
Jugée coupable non pas d'avoir chassé les Anglais hors de France, mais de porter des habits d'homme dans une prison où la jeune femme est malmenée par ses geôliers. Cette Jeanne d'Arc courageuse et incandescente, portée par la voix de Judith Chemla, tantôt murmurée, tantôt enragée, est sublimée par la musique du compositeur Camille Rocailleux.
Il y a d'un côté la dimension très brutale des juges, des accusateurs, ce rouleau compresseur très oppressant pour Jeanne d'Arc. Donc là j'avais besoin d'une musique assez sombre et assez brutale aussi, donc l'utilisation des percussions, des sonorités comme ça, des frictions dans les sons des cuivres graves qui saturent. Et puis d'un autre côté il y a ces moments de recueillement où elle est seule, on la retrouve dans un moment d'intimité et là ce sont ses voix, c'est le chant lumineux qui s'exprime à ce moment-là.
6 musiciens polyvalents œuvrent dans la pénombre. Ils traversent des univers inspirés de Monteverdi à David Bowie pour rendre ce procès de Jeanne, cet interrogatoire qui a duré des mois, plus proche de nous, intemporel et poétique. Une poésie qui émane des mots mêmes de son héroïne, première prisonnière politique et féministe avant l'heure, qui défend ses convictions jusqu'au bout avec grâce et dignité et nous donne une belle leçon d'humanité.
Le Le procès de Jeanne d'Arc, c'est au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 16 février, ensuite en tournée dans toute la France jusqu'au 27 mai. Une courte pause dans RFI Midi, 30 secondes avant de retrouver Afrique Midi.
Cool, cool, cool.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Ce lundi 10 février, Koffi Olomidé fera ses couleurs tropicales et annoncera son concert-événement prévu le 19 juillet à l'Hippodrome de Vincennes, près de Paris. L'occasion de parler musique, bien sûr, et d'évoquer la situation en RDC. Koffi Olomidé dans Couleurs tropicales, c'est toujours un événement.
Couleurs tropicales, Claudiciard.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.